With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ils n'aiment pas ce que je fais. Mais c'est normal qu'ils n'aiment pas ce que je fais. Je suis leur fille et je raconte pas mal d'histoires de cul que j'ai vécues. Évidemment que ça ne leur fait pas plaisir d'entendre ça. Mais moi, ce spectacle, je l'ai pas écrit pour mes parents. Parce qu'à la base, je parlais pas de tout ça. Parce que je me disais, oh, j'ai quand même des parents, un jour ils vont voir. Et le jour où je me suis dit, il faut que tu arrêtes de vivre pour tes parents, j'ai vraiment pris un niveau en stand-up.
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. Les gens qui n'ont pas l'habitude de parler dans un micro, souvent, ils adorent.
Ah ouais ?
S'entendre.
Non, moi, j'aime pas ça.
t'aimes pas entendre ta voix ?
Non. Du coup, si à un moment, je me décale trop, tu me le dis. Et
oui.
Comme ça, je remets le micro
proche. Oui, je te dirai.
Ok.
Comment t'as pas appris à aimer ta voix ? Parce que tu l'entends, ta voix, forcément.
Non, je m'y suis habituée.
Ouais.
C'est pas pareil.
Ah oui.
Ouais.
T'as pas appris à l'aimer ?
Non. Mais personne n'aime sa voix, je crois.
Bah écoute, moi j'ai appris à l'aimer.
Ah ouais ?
Ouais.
Parce que c'est drôle.
Bah j'allais dire, c'est mon outil de travail, mais c'est pareil pour toi, limite.
Ouais, je sais. Et il y a plein de gens qui me disent, j'adore ta voix, tu devrais faire des podcasts. Et je me dis, mais comment est-ce possible ?
Parce qu'en fait, t'as une voix, je trouve déjà, t'as une voix de radio. T'as une voix.
La chatty, ouais.
T'as une voix grave, un peu grave, tu vois.
Okay.
Un peu chaude.
Ouais.
Avec une intonation qui part parfois dans les aigus. Et en fait,
ouais.
Qui fait. qui fait que t'as pas une voix monotone.
Ok.
Et en plus, je trouve que comme tu es comédienne, que t'es montée sur scène, t'as appris à, j'imagine, travailler avec ta voix.
Pas vraiment, non.
C'est vrai ?
Ouais.
T'as jamais fait de cours de coaching vocal ou
non.
Je sais pas quoi ? Ah ouais ?
Non, jamais.
Mais donc c'est juste le travail ?
Je sais pas, je pense que c'est l'habitude de monter sur scène, mais ouais.
Ok, parce que ouais. Tu vois, je me disais, t'as vraiment un ton. Alors t'as un ton un peu équivalent à... T'as conscience que t'as un ton quand même,
ben,
sur scène.
En fait, c'est justement que je n'ai pas de ton. C'est que justement, j'ai l'impression d'être très monocorde. Et c'est très étrange parce qu'on m'a fait remarquer pas mal de fois que souvent, je finis mes phrases vers le haut
oui.
Comme si je posais des questions, alors que je pose pas de questions. Mais je fais pas exprès.
Mais c'est pour ça que pour moi, ça fait partie de ton ton.
Ah oui, mais j'ai toujours parlé comme ça, je n'ai rien travaillé. Et au collège, je me rappelle, il y a des gens qui se moquaient de moi parce que je parlais comme ça.
Mais tu vois, je croyais vraiment que c'était un truc que t'avais travaillé.
Mais c'est hyper bizarre de travailler ça.
Mais une sorte de signature, quoi, tu vois.
De faire genre, toutes mes affirmations vont ressembler à des questions, tu penses que j'ai travaillé sur ça ? Faut avoir l'idée. Ah bah, non, c'est... Non.
Alors par exemple, tu vois, j'ai rien à voir, mais j'ai interviewé Olivier de Benoît.
Ouais.
Et tu vois, lui, il a vraiment... Il parle comme ça, et bonjour monsieur, comment allez-vous ? Je suis aujourd'hui sur scène, parce que, tu vois. Et je lui en ai parlé, il m'a dit, ouais, c'est vraiment un personnage que j'ai travaillé. Que j'ai...
Oui.
Et en fait, je me disais, bah, en te voyant et en voyant tes vidéos, etc., tu vois, je me disais que c'était vraiment un truc que tu avais travaillé avec le temps.
Non, mais pourtant, Olivier de Benoît, ça m'étonne pas, parce qu'on voit que c'est caricatural.
Ouais.
Donc, moi, on dirait que c'est caricatural
non,
aussi.
Non,
et ben voilà.
Parce qu'en fait, il a un.
Lui, ça se voit que c'est caricatural, et pas moi.
Mais c'est une signature, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est une signature vocale limite.
Okay. Ah ouais, bah écoute, j'aurais pas eu l'idée de faire ça.
Mais écoute...
J'aurais pas eu l'idée de faire ça. Voilà, ça c'est ma signature.
Ceci dit, pour revenir à ta voix, je la trouve chouette. Et je la trouve radiophonique.
Et bah écoute, on lance un appel.
À quoi ?
Aux radios.
Tu veux aller faire des chroniques sur France Inter ?
Non.
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 Non. C'était un nom de désespoir, vraiment.
Ah non, pas du tout. Non, j'ai pas envie de faire des... J'ai déjà fait des chroniques en télé, c'est pas quelque chose qui est... J'ai pas envie de refaire ça, non.
Ok. Tania, t'es humoriste.
Oui.
Pour les gens qui ne te connaissent pas.
Ouais.
Tu es humoriste.
Ouais.
Tu montes sur les planches.
Ouais.
Depuis une dizaine d'années.
Depuis très exactement fin 2008.
Mais plus qu'une dizaine, ouais. Une quinzaine d'années. Hein.
Ouais.
Ah. Voilà.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a? Ah.
Bah c'est vrai que ça fait longtemps. Hein. Ouais.
Mais pas
non,
de
mais
commentaire.
Moi j'ai toujours l'impression d'être hyper jeune, donc ça me fait bizarre.
Bah t'es, oui, t'es hyper jeune.
Non mais je veux dire hyper jeune quoi.
Plus jeune qu'il y a, ouais. Plus jeune que quand t'as commencé donc.
Non, je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir 32 ans, ça me fait bizarre.
Ok, pourquoi?
On
a le temps,
tu sais,
on est dans un podcast,
que...
on a le temps de parler.
Ouais.
Tu me tends des perches comme ça, je peux pas ne pas les saisir.
Mais je sais pas, t'as pas la... Est-ce que tu t'avais pas ça quand t'étais petit? Parce que je pense que tout le monde avait ça. Quand t'avais genre 10 ans, tu ne te voyais pas avoir l'âge que t'as aujourd'hui.
Bien sûr.
C'est dans trop longtemps, ça n'arrivera jamais. Je vais passer ma vie à avoir 10 ans. Sauf qu'aujourd'hui, t'as ton âge. Et ben, tu vois, c'est ça.
Moi, je vais avoir 45 ans. Autant te dire que vraiment, là, on est dans la daronnerie bien établie, quoi.
Et ben voilà, moi, dans un mois, j'ai 33 ans. Jamais de ma vie, j'aurais pensé un jour avoir 33 ans, sans penser être morte avant, mais en me disant, mais ça va prendre tellement de temps pour y arriver. Et bah ça y est, je vais avoir 33 ans.
Mais ça a pris du temps en même temps.
Ça a pris du temps, mais c'est passé vite.
Ah ouais, tu trouves?
Oui, mais parce que tu sais, c'est aussi un truc d'échelle. Parce qu'à chaque fois, à un moment, je m'étais dit, c'est pas possible, il y a un problème, il y a une faille dans l'espace spatio-temporel. Parce qu'avant, le temps passait pas aussi vite. Et en fait, c'est juste qu'il y a des échelles de quand t'as 3 ans, eh bien, une journée, c'est beaucoup parce que t'as vécu que 3 ans. Alors que nous, quand on a vécu déjà plus de 30 ans, une journée, c'est que dalle. Et c'est pour ça que le temps a l'air de passer de plus en plus vite.
Je crois que ça s'accélère. Hein.
Non, ça s'accélère.
T'imagines à 90 ans, t'es là, paf.
Mais tu vois, c'est pour ça, moi je pensais vraiment qu'il y avait une faille, mais en fait, non.
T'as pas menti.
Non.
Tu croyais que c'était les Illuminati qui t'a...
Bah, c'est les francs-maçons même.
Bien sûr.
Mais voilà.
Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. À quoi tu ressemblais, Tania, quand t'avais 7-8 ans?
Quand j'avais 7-8 ans, j'étais en surpoids, j'avais des dents éclatées au sol. Et voilà. Et les cheveux très longs.
Très long.
Aux fesses.
Aux fesses.
Ouais.
Et en termes de personnalité, à quoi tu ressemblais? T'étais bout en train?
Je faisais beaucoup de blagues, j'étais drôle. C'était un peu une façon pour moi de faire en sorte que les autres m'aiment bien. Parce que comme ils se moquaient beaucoup de moi, le fait d'être drôle, bah, au moins des fois, ils étaient un peu gentils avec moi.
Ouais. Comment ça se passe ton collège?
Mon collège se passe... moyennement, c'est-à-dire qu'autant je suis pote avec les gens de ma classe parce que je suis drôle et je suis sympa, mais après dans le reste, ceux qui me connaissent pas dans le cours de récré, je me fais beaucoup insulter, je défends des personnes aussi qui sont au collège. Dans ma classe, j'étais avec un garçon qui était retardé mental et un autre qui avait la mucoviscidose, et visiblement ce sont des maladies hilarantes, donc tout le monde se foutait de leur gueule et moi je les défendais tout le temps, donc il y a aussi beaucoup de gens qui m'aimaient pas parce que je les défendais.
T'avais besoin de les défendre?
C'est pas que j'avais besoin, c'est que je ne comprenais pas comment on pouvait se moquer d'eux. Je ne comprenais pas ça.
T'as grandi où?
J'ai grandi dans le Beaujolais, un petit village à côté de Villefranche-sur-Saône.
Et tes parents, ils faisaient quoi comme métier exactement?
Mon père travaillait...
Enfin, ils font quoi?
Alors mon père, quand j'étais petite, il travaillait chez France Télécom. Donc comme en plus je m'appelle Dutel, ben, j'avais droit à du téléphone, ton père... Enfin bon, les blagues hilarantes. Ma mère nous a élevés, on est 4 enfants, elle nous a élevés. Voilà.
Ok. T'as grandi dans cet environnement-là, quoi.
Ouais.
Petit village.
Ouais.
Avec un collège, avec bien sûr des enfants cruels.
Ouais, comme tous les enfants partout dans le monde. C'est comme ça.
Et toi, tu ne comprenais pas pourquoi le reste du monde était cruel avec le reste du monde.
Ouais, parce que ma mère m'a toujours appris qu'il ne fallait pas se moquer des autres.
Ouais.
Donc pour moi, c'était normal. Comme ma mère me l'a appris, ben, il faut pas le faire. Et donc, ouais, ça fait partie des choses que
Qu'est-ce
je comprenais
qui fait
pas.
Que les autres parents n'expliquent pas aux enfants qu'il ne faut pas se moquer des autres?
Je pense, c'est une supposition, je pense qu'il y a des parents qui ne veulent pas que leur enfant soit victime, donc ils préfèrent que ce soit des harceleurs que des victimes. mais c'est clairement une supposition. Ah. Et je suis en train de lire un truc, un livre qui s'appelle Les Narcisses, qui a été écrit par Marie-France Irigoyenne, qui est une, tu connais ?
Oui, bien sûr, qui est une psychiatre, psychologue.
Psychiatre, psychanalyste, tout ça, et qui a inventé le terme de harcèlement moral, je sais pas, dans les années 70 ou 80.
Ah, ça, alors, ça, elle s'est fait connaître au début des années 2000 très fort. Elle a eu une grosse notoriété grâce à un bouquin qu'elle avait sorti.
Où elle parlait de harcèlement moral, ouais. Mais ce terme, elle l'avait déjà inventé, ouais. Qui ensuite a été traduit dans toutes les langues. Et donc là, elle a écrit un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Les Narcisses, où elle parle justement de narcissisme, tout ça, en disant qu'il y a de plus en plus de gens narcissistes aujourd'hui. L'enfant roi, donc il y a plein d'enfants qui mettent deux parents qui mettent leurs enfants sur un piédestal, et à cause des réseaux sociaux aussi, où effectivement les gens se mettent en avant tout le temps. Même dans mon métier, moi, il y a plein de gens, quand c'est leur anniversaire, ils mettent une photo d'eux en disant aujourd'hui j'étais là, et je me dis mais pourquoi est-ce que tu as autant besoin d'attention pour que tout le monde vienne te dire joyeux anniversaire? Est-ce que ce jour est si important pour la Terre, pour l'humanité? As-tu vraiment besoin de te mettre autant en avant?
Mais quand t'es comédien ou humoriste, c'est inhérent à ton métier, non?
Ben,
j'ai pas envie de te dire c'est limite du community management, mais il y a aussi un truc où si tu montes sur scène, c'est pas par hasard.
Je sais, mais c'est aussi pour ça que je suis pas très forte sur les réseaux, c'est parce que j'ai pas envie de raconter je raconte ma vie sur scène, mais ce que je raconte, c'est moi qui décide de le raconter. Ce que je fais tous les jours, si j'ai pas envie de le dire, je ne le dis pas. Ça regarde personne. Oui, j'ai fait des stories quand j'avais des souris chez moi parce que ça me faisait aussi marrer. Mais je ne mets pas de photos de ce que je mange. Je dis pas. Je fais du sport. Je fais pas des photos de moi en disant no pain no gain. Tu vois, ça c'est ma vie. Ça regarde pas les gens en fait.
Ouais, donc je comprends.
Mais effectivement, il faudrait que je le fasse pour avoir plus d'abonnés, mais ça ne m'intéresse pas.
Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a un truc très inhérent au métier d'humoriste et de comédien, c'est que tu montes sur scène et tu vois, je suis allé te voir à l'Européen, il y a 300 personnes qui te regardent, donc t'as 600 yeux sur toi en train de raconter. Alors certes, tu racontes ce que tu veux, tu vois, mais il y a un truc très... tu montes aussi sur scène pour attirer l'attention, quoi, tu vois, et c'est pas un jugement, c'est... Non ?
Ouais, bien sûr, mais pour moi, c'est vraiment différent. C'est dans le cadre d'un spectacle. Ouais. Et donc, les gens qui viennent, ils ont pris la décision de venir me voir aussi.
Ouais.
Je leur impose pas ça sur les réseaux. Je sais pas, après, c'est vraiment ma vision.
Ah, quand c'est intéressant.
Je poste quasiment plus rien sur les réseaux. Je choisis vraiment ce que je poste. Et c'est quand même essentiellement des vidéos de stand-up.
Ok.
Parce que je me dis, ils me suivent pour ça. Donc, c'est ça qu'il faut que je leur amène. Pas des photos de moi en maillot de bain ou ce genre de choses. Parce que ça serait un peu bizarre.
Si t'as envie de partager que tu te kiffes en maillot de bain.
Tout à fait.
Les gens se désabonnent s'ils veulent pas.
Ouais, je sais, mais du coup, j'ai l'impression de rentrer dans un truc d'influenceuse et c'est aussi pour ça que, ouais, okay. Tu vois.
C'est ça le truc.
Ouais. C'est aussi ça. Et c'est pour ça que dans ma bio sur Insta, c'est bien écrit, je suis pas influenceuse, arrête de me proposer tes produits, parce qu'on m'envoie des messages pour faire de la pub en me disant, tiens, je te donne ça ou alors je te paye pour faire ça et tu me fais de la pub. Mais je ne suis pas influenceuse, en fait. Donc même si tu me payes, bravo, c'est super, mais ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon métier.
Ok.
Voilà, bon, je suis très rigide apparemment.
Mais non, c'est pas. En fait, pour moi, c'est pas une question de rigide ou pas rigide. C'est juste la façon dont tu considères ton métier. Et tu vois, tu pourrais être à la fois humoriste et monter sur scène et te dire, bah tiens, il y a telle ou telle marque qui me propose un truc, j'aime bien, je trouve ça cool, je vais en parler, je vais en profiter pour prendre un petit chèque en passant, quoi.
Alors, mais moi, c'est pas ma vision des choses. Ça veut pas dire que je ferai jamais de pub. C'est-à-dire que si une marque que je trouve bien me propose ça, je vais faire de la pub. Mais pour les vêtements ou ce genre de trucs, il faudrait que ce soit quelque chose d'éthique. J'ai déjà fait de la pub sans qu'on me le demande. J'ai découvert, il y a 2 ou 3 ans, un gars, un Français, il a créé une crème solaire qui ne pollue pas l'eau. Et à chaque fois que tu achètes un flacon, il replante des coraux et il nettoie 1 mètre carré de plage. Ça, j'en ai parlé sur mes réseaux sans qu'on me demande quoi que ce soit. J'ai acheté mes tubes de crème de sa marque et j'en ai fait de la pub parce que je trouvais que c'était bien de la faire connaître aux gens.
Ok. Oui, c'est pour le coup, mais c'était pas une opération spéciale. C'est juste.
Ah non, j'ai pas été payé, il m'a rien demandé.
Donc c'est pas vraiment de la pub.
J'ai acheté mes produits.
Tu vois, c'est pas vraiment de la publicité au sens publicitaire du terme, quoi.
Ouais.
Ok.
C'est pour faire connaître, quoi. Je me dis, s'il y a un truc que j'ai envie de faire connaître, ça, je le fais.
Ok. Revenons à ton histoire.
Oui.
Donc, collège compliqué.
Ouais.
Lycée, what happens?
Lycée, c'est dans la continuité, hein, toujours problème de poids, donc on est toujours dans les trucs des insultes. Mais après, en vrai, j'étais pas non plus en mode... c'était pas facile, on sautait beaucoup de ma gueule, mais j'étais pas en mode hyper victime non plus, parce que j'avais quand même des potes et j'étais jamais seule. J'ai jamais été seule, quoi.
Et tu répondais ou tu avais de la répartie par rapport à...
Non, j'avais zéro répartie. Non.
C'est un truc que t'as poncé, ça, avec le temps, que t'as travaillé
Ouais, c'est venu après. J'ai commencé à répondre aux gens qui m'insultaient après la vingtaine, parce que quand je suis arrivée à Paris, j'ai découvert que dans la rue, il y a des gens qui m'arrêtaient pour me dire que j'étais grosse. Je trouvais ça absolument fou.
Ça n'existait pas dans ton village
Non, parce que les gens me connaissaient, donc ils ne m'arrêtaient pas pour me dire ça, quoi. Au collège, au lycée, oui, à l'école aussi, mais pas quand je marchais dans la rue.
Ça aurait pu.
Ça aurait pu. Mais à Paris, il y a des gens que je connaissais pas qui me disaient ça. Et vraiment, à chaque fois que je les regardais, c'était toujours des hommes. Toujours. 100% du temps, c'était des hommes. Et c'était jamais des mecs bien gaulés. Et vraiment, je crois qu'il y a une fois où le gars, il était gros. J'ai dit, mais enfin, tu t'es regardé? T'es gros toi-même? Pourquoi tu me parles de mon poids? Mais ça, je trouvais ça fou. Mais voilà, c'est ce truc où la personne est mal dans sa peau, donc elle se dit, allez, je vois quelqu'un qui a pas l'air bien dans sa peau, donc je vais aussi lui faire remarquer.
Souvent, on fait ça. Hein. Les trucs sur lesquels on réagit, c'est souvent les trucs sur lesquels on tique, nous, par rapport à nous. Quoi.
Ouais, bien sûr. Ouais.
C'est un grand classique.
Ouais.
Les autres ne sont que des miroirs.
C'est ça. Exactement.
Attends, mais donc t'as fait un grand saut. Pourquoi t'es venue à Paris?
Je suis venue à Paris à l'âge de 19 ans pour faire un BTS audiovisuel.
Ok. Donc ouais, ton objectif, c'était vraiment...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
De faire quoi? De devenir réalisatrice, monteuse? Tu voulais bosser dans l'image, mais ça te venait d'où?
Je crois que mon objectif principal, c'était de quitter ma région et de venir à Paris. Effectivement, ça avait jamais été dans les jobs que je voulais faire, parce que moi, j'étais plutôt dans des... Jusqu'en terminale, j'étais plutôt dans des jobs qui étaient plutôt dans les sciences. Et j'ai fait une école de commerce après le lycée, je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, mais c'est jamais quelque chose que j'avais voulu faire avant. C'est juste que c'était une école franco-américaine. Et moi, à ce moment-là, je rêvais de partir vivre aux États-Unis. Okay. Je m'étais dit, allez, je vais passer par là. Bon, j'ai fait qu'un an. Et autant te dire qu'aujourd'hui, je n'aurais absolument aucune envie de vivre aux États-Unis. Surtout avec tout ce qu'on voit, avec l'avortement, tout ça, ouais. c'est terrible. Et puis, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire un BTS audiovisuel. En vrai, je crois que c'était vraiment quitter ma région, venir à Paris. Après, ouais, je voulais faire de la réal. J'aurais voulu pouvoir faire une école comme la Fémis. Mais déjà, j'avais fait mon BTS en alternance pour pouvoir payer mon loyer. J'avais commencé à jouer en même temps. Donc, j'étais 2 jours par semaine en cours, 3 jours par semaine au taf, tous les soirs sur des plateaux en train de jouer. Et je m'étais dit, en fait, j'allais pas pouvoir tenir ce rythme 2 ou 3 années de plus. Donc, j'ai eu mon BTS et j'ai arrêté mes études.
Mais donc, comment t'en es venue à... Parce que tu glisses là comme ça en passant que tu jouais sur scène.
Ouais.
C'est quoi le déclic, en fait?
Moi, j'avais toujours joué. Depuis que j'avais 7 ans, je faisais du théâtre et j'adorais ça. Mais comme dans ma famille, on me disait que c'était pas un métier. Bon, moi, je voulais devenir comédienne, mais on n'arrêtait pas de me dire c'est pas un métier. Puis comme j'étais bonne à l'école, il y avait beaucoup d'attentes sur moi par rapport au métier. Ce que je voulais, quand j'étais petite, je voulais être paléontologue. Après, ça, je le dis dans mon spectacle. Et c'est vrai, c'est le premier métier que j'ai voulu faire pendant longtemps. J'étais passionnée par les dinosaures. Et après, à partir du collège, j'ai voulu faire de la médecine. Et j'ai eu ce truc de... J'étais terrifiée à l'idée de pas sauver des gens. Et donc, je me suis dit, je vais devenir légiste, comme ça, je les prends déjà morts.
Tu leur racontes aussi.
C'est vrai. Oui, mais j'ai conscience qu'en le disant, les gens se disent, c'est une blague. Mais non, ça a été ma façon de penser.
Mais en même temps, c'est tellement logique.
Ah, mais
c'est que la meilleure façon
aussi,
de pas échouer en tant que médecin, c'est d'être médecin légiste.
Exactement. Exactement. Et donc, je voulais devenir médecin légiste. Et donc, bref, changement de plan. J'arrive à Paris. Il y a une fille qui est en BTS avec moi qui m'emmène voir le spectacle de Mustapha El Atrassi au théâtre Le Temple à l'époque. Et en le voyant, je dis « Ok, c'est ça que je veux faire ». Et donc, j'ai commencé direct.
Direct.
Ouais.
T'es montée sur... Qu'est-ce qui s'est passé alors? T'as commencé à écrire 5 minutes de blagues?
J'ai regardé sur Internet comment faire. Je suis tombée sur un casting pour une émission qui était sur la chaîne IDF1, donc toute petite chaîne. Donc j'ai les contacts, on me dit qu'il faut un 5 minutes, on faut passer un casting. C'était à Neuilly-sur-Seine. Donc j'écris 5 minutes, j'arrive dans cet endroit. Je vois un jury avec une quarantaine d'humoristes qui sont là pour faire leur truc. Ils prennent que 4 personnes. Je dis, en fait, je suis jamais montée sur scène. Je vais pas perdre mon temps et me ridiculiser. Donc, je vais pour partir et quelqu'un du jury me dit, mais non, il faut quand même essayer. On sait jamais. Chez le casting, je suis dans les 4 qui sont pris. Et donc, je fais cette émission. C'est une catastrophe monumentale.
Elle existe encore quelque part?
Je ne l'ai jamais retrouvée. Non, non. Hein. Et autant te dire que s'il y avait des indices à donner, je ne les donnerais pas pour retrouver cette vidéo.
Ah, mais je trouve ça cool, moi, tu vois.
Bah, peut-être qu'un jour, je la ressortirais si moi, je le décide.
Oui, c'est ça.
Mais en vrai, je ne l'ai jamais retrouvée. Et bah, tu sais, à cette époque-là, il n'y avait pas le streaming, tout ça, c'était en 2008. Et une des personnes qui travaillait dans cette émission donnait des cours d'écriture, donc je m'y suis inscrite avec plusieurs personnes. Et du coup, j'ai suivi ces cours de janvier à mai 2009. Et en parallèle, je commençais à aller jouer dans des plateaux.
Ok. Et petit à petit, t'as bossé tes cours? Enfin, tes cours, t'es... Pas du tout, tes blagues?
Ouais.
Et Non, t'allais dire un truc?
Non, c'est que à cette époque-là, je faisais pas vraiment du stand-up. Je faisais de l'humour plutôt absurde. J'ai commencé à faire et ça marchait très bien en plateau, mais dans le spectacle entier ça ne marchait pas du tout, les gens ne comprenaient pas ce que je faisais. Et en 2016 j'ai commencé à faire du stand-up et là ça a commencé à marcher.
Qu'est-ce qui t'a fait dire qu'il était temps de faire du stand-up?
Un lieu dans lequel je jouais qui était très misogyne, où moi j'ai grandi dans un environnement assez misogyne. Donc pour moi, c'était la normalité. Et donc, je joue beaucoup dans ce lieu qui est très misogyne. Et au début, bah, tout est normal. Et au bout d'un moment, je me dis, mais c'est quand même pas bien normal ce que je suis en train de vivre là. Moi, j'étais pas du tout déconstruite. Je me suis vraiment déconstruite vers 25 ans. J'ai commencé à me déconstruire à l'âge de 25 ans.
C'est jamais terminé en même temps.
C'est jamais terminé. Donc c'est tard. Et en même temps, je connais des personnes de mon âge, femmes, qui n'ont même pas du tout commencé à se déconstruire. Donc, bon, voilà, on a chacun notre chemin. Et
oui,
je commence à me...
Excuse-moi, mais 2016, c'est vraiment le moment où ça commence à sortir très fort, le discours féministe, etc.
Ouais.
Et je crois que c'est d'autant plus dur d'en sortir que tu as baigné là-dedans toute ta vie. Et que, comme tu dis, pour toi, c'est la normalité quoi.
Ouais.
Tu vois,
c'est ça.
Bon, après, pour expliquer un peu, globalement... À l'époque, surtout à l'époque, le milieu de l'humour, c'est pas très mixte, on va dire. Généralement, sur les plateaux, il y a une meuf.
Ouais. C'est toujours le cas, hein, on va pas se mentir.
Aujourd'hui, je
dans les comédie clubs, je te parle. Dans les comédie clubs, je suis souvent la seule fille. Quand il y a des émissions ou des galas ou ce genre de trucs, on va être plus de femmes. Mais dans les comédie clubs, je suis souvent la seule fille. Sur ce créneau-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir 3 filles qui vont jouer le même soir, mais du coup, elles vont être sur un créneau différent.
Toujours là. Donc, qu'est-ce qui fait que tu dis qu'à l'époque, tu te rends compte que petit à petit, qu'en fait, c'est pas normal, c'est ça? Et tu te dis, bon, ok, je vais en faire des blagues, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ok.
J'ai aussi une discussion avec Kader Aoun qui me dit, je comprends pas parce que dans la vie, tu es une des personnes qui me fait le plus rire. Et sur scène, je vois pas ça de toi. C'était au moment où je faisais de l'absurde. Et donc, toutes ces petites choses font que je commence à écrire du stand-up. Et ça fonctionne.
Et tu fais du stand-up un peu salé? De meuf saoulée par l'existence?
Ben, c'était... À ce moment-là, c'était vachement... les premières blagues que j'ai commencé à écrire, c'était sur le viol, avec cette fameuse phrase de « faudra pas qu'elle s'étonne si elle se fait violer ». c'était sur des trucs comme ça. Je racontais aussi quand une fois dans le métro, je me suis fait malaxer la fesse gauche. Tu vois, je raconte des trucs que j'ai subis en tant que femme. J'ai commencé à écrire des trucs comme ça.
Et t'arrives à en faire des blagues ?
Ouais, qui marchent très bien d'ailleurs. Elles marchaient très bien ces blagues, ouais. J'arrive à en faire des blagues, ouais.
Mais c'est un vrai exercice, quoi.
Ouais. Ouais, ouais.
Je te dis ça parce que bon, on va reparler de ton spectacle plus globalement, mais tu parles de ton viol en fait dans ton spectacle. Je le balance comme ça. Et en fait, j'étais hyper scotché de voir que tu le balances comme ça entre deux vannes comme ça. Et je trouve que c'est tellement fort en fait ce moment parce que déjà la salle est calmée.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire ok, en fait, c'est le moment d'y aller et de raconter ça.
Déjà le fait, je me suis rendu compte de ça, comme je le dis dans mon spectacle, plusieurs années après, quand le hashtag MeToo est sorti. Je savais que je voulais l'aborder à un moment sur scène. Quand j'ai commencé à écrire ce nouveau spectacle, je me suis dit ok, je vais en parler à un moment. Et là où vraiment j'ai eu le déclic, c'est quand il y a beaucoup d'histoires qui sortent tous les mois avec des hommes connus où après on n'en entend plus parler. Et je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est l'histoire sur Harry Habitant où j'ai dit là, ça y est, je peux plus. Et je dis, faut que je parle de ça.
Ok. Et tu t'es dit que, tu t'es dit que ton show était le bon endroit pour venir raconter ça? Plutôt que d'en faire, je sais pas moi, un thread sur Twitter ou un truc comme ça.
En fait, c'est très étrange, mais. Quand j'ai commencé à en parler, pour moi, justement, c'est dans le cadre du spectacle. Donc, c'est comme si pour moi, c'était intime et personne d'autre allait en parler. Je n'avais pas conscience que les journalistes ou d'autres personnes allaient m'en parler. Je n'y avais pas pensé.
T'as été étonnée, là, quand je t'en ai parlé? J'ai vu en toi, c'était « Ah putain, ça y est, c'est le moment. »
Non, parce que du coup, ça a été frontal.
Oui, un peu.
C'est stupide parce que c'est logique, mais je n'y avais pas pensé. Parce que moi, j'ai l'impression que mon spectacle, c'est vraiment mon spectacle. Et que ce que je dis, ça reste dans cette salle. Et ça sort pas. Sauf que, en fait, non. Ça peut sortir puisque je le balance. Mais je sais pas si tu vois ce que je dis.
Ah, tu veux dire que tu t'as construit quelque part ton spectacle pour raconter un peu...
Aux gens qui viennent me voir.
C'est ça.
Pas sur Internet.
Et pour toi, c'est pas pareil ?
Pour moi, c'est pas pareil.
Pourquoi ?
Je sais même pas si je suis capable d'expliquer ça. C'est ce que je sors sur Internet, je décide de le sortir sur Internet. Ce que je laisse dans ma salle de spectacle, c'est dans ma salle de spectacle.
Ok.
Je sais pas comment l'expliquer, mais...
Mais tu te doutes bien que c'était... Enfin, c'est un moment très fort de ton spectacle.
Ouais, oui, je sais, mais... je sais pas.
Ok.
Je pourrais pas te l'expliquer. Mais oui, pour moi, c'était plus... Je vois pas l'intérêt d'en faire un tweet, juste de balancer ça comme ça. Je n'en vois pas l'intérêt. De faire un procès public comme ça, je n'en vois pas l'intérêt, moi, personnellement. Et donc, je préfère le raconter dans mon spectacle.
Et d'en faire des blagues.
Parce que je me dis que si les gens, ils me voient aussi parler, et donc, en me voyant... Ils sont censés savoir et comprendre que ce que je dis, c'est vrai et que je ne mens pas. Tu vois ce que je veux dire ?
Papa, tu veux dire parce que t'es sur scène, c'est ça ? Et qu'en fait, tu prends la parole à ce moment-là, toi-même sur scène,
ouais.
Et pas sur Internet ?
Et que comme tout ce que je dis sur scène, c'est vrai. Après, je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas ce que je raconte, notamment l'histoire des catacombes, tout ça. Je sais qu'ils n'y croient pas. Mais pourtant,
toute une histoire autour des catacombes.
Tout est vrai. Et donc, je sais pas, je me dis que de moi en parler, je sais pas, après, s'ils décident de pas me croire, c'est...
Oui.
Ouais, je dis, moi, j'apporte le truc.
Ah oui, je vois. Tu veux dire qu'en incarnant le truc, vraiment, t'as la sensation que ça rend ton histoire crédible, quoi, c'est ça?
Et que c'est pas possible de pas me croire, parce qu'en plus, je raconte quand même des détails.
Ouais. Oui, tu racontes l'histoire, quoi.
Ouais.
Tout en faisant des blagues.
Ouais.
Rien à voir, mais cette histoire d'enfant imaginaire.
Oui.
Que se passe-t-il ? Parce que ça, t'en profites aussi pour parler de maternité, notamment, enfin, tu vois, de rapport à ce que c'est qu'être une femme, de ce que c'est qu'être. De désirer un enfant. Tu racontes que t'as un enfant imaginaire dans ta tête ?
Tout à fait. Bon, je l'ai pas en vrai dans la vraie vie, tu vois. C'est là. Non, c'est bah pour poser le fait que de cette pression qu'on nous met avec cette histoire de maternité. Parce que on me pose moins la question maintenant, mais je sais que je sais pas, de 25 à 30 ans, me demander tout le temps si je voulais des enfants.
Et maintenant que t'as 32, c'est ça?
Ouais, on peut. Je pense que les gens ils savent. Les gens ils me posent pas de questions. Non, mais ils savent. Ils savent qu'ils ont pas à me poser la question. Je pense qu'il y a ça aussi.
Ah ça, tu veux dire? Ok, j'avais plutôt l'impression que c'était vraiment entre 30 et 40 ans qu'on te faisait chier, tu vois plutôt.
Ah oui, oui, bien sûr. Mais je pense qu'avec moi les gens ils savent. Comme j'ai un côté assez fermé dans la vie, je pense qu'il y a des trucs ils disent non, je vais peut-être pas lui poser cette question quand même. Après il y en a ils osent quand même. Mais voilà.
Et comment tu réponds quand les gens ils osent?
Je dis je sais pas, je suis en paix avec les deux décisions. Avoir un enfant pourquoi pas, ne pas avoir un enfant pourquoi pas, en fait je suis en paix avec les deux décisions. J'avoue que je penche plutôt du côté de pas en avoir, mais ce que je sais qu'il y a 10 ans pour moi c'est inconcevable de pas avoir d'enfant parce que j'avais peur d'être seule quand j'allais vieillir. Après je dis mais enfin c'est hyper égoïste. Et puis si mon enfant il veut partir vivre à l'autre bout du monde, je vais pas le forcer à rester à Paris à côté de moi juste pour pas être seule.
Bah si, non, c'est pour ça que j'ai des enfants.
Bien sûr. Donc voilà, je suis en paix avec tout, je n'ai pas de désir. Je me suis fait la remarque la semaine dernière, je suis passée à côté d'un bébé, ouais. Ça m'a rien fait. Alors que quand je vois un chien, je suis toute excitée et j'ai envie de jouer avec le chien. Un chien m'attendrit plus qu'un enfant. Donc voilà, je crois que...
Il y a un indice sur votre écran.
Je crois qu'il y a un bel indice, ouais.
Mais ceci dit, je trouve que c'est une vraie question qui est intéressante à se poser sociétalement. C'est que je trouve qu'aujourd'hui, l'idée même de se dire qu'on a le choix, alors en tant que femme ou en tant qu'homme, tu vois. Moi, je sais que quand j'avais ton âge, ça n'existait pas, le fait de pouvoir ne pas avoir d'enfant. Tu ouais. vois. Le discours child-free, il était pas du tout dans la société, quoi.
Ouais, ouais.
Et je trouve que, alors certes, c'est une prise de tête, parce que c'est quand même vachement plus simple de te dire que t'as pas le choix et qu'en fait, il faut faire des enfants. Mais après, tu prends pas forcément les décisions sur des bonnes, sur des bons critères, quoi.
Ouais.
Je sais pas comment tu te situes par rapport à ça, mais t'as l'air d'être plutôt sereine, en fait.
Ah, je suis complètement sereine par rapport à ça. Je sais que cette histoire d'horloge biologique ne me travaille pas du tout.
Ouais.
Je me suis jamais dit, je vais quand même aller contrôler pour voir si j'ai encore beaucoup d'années devant moi. Non, ça me. Je me dis, si ça doit arriver, ça arrive. Et si ça doit pas arriver, ça arrive pas. À un moment, j'avais plutôt envie d'adopter. Mais c'est pareil, il y a aussi des gros débats sur l'adoption parce que on enlève aussi. Parce que souvent, quand on adopte en France, c'est des enfants qui viennent de pays étrangers. Et à ce truc de ok, en tant que française blanche, je vais lui offrir une meilleure vie. En fait, elle a mais tu te prends pour qui à penser comme ça? T'es en train de déraciner cet enfant. Et si effectivement tous les enfants adoptés avaient le même discours de je suis très heureuse d'avoir été adoptée et d'avoir cette vie, ok, mais c'est pas le cas.
Ah ouais.
C'est pas le cas du
c'est
tout.
C'est souvent compliqué. Hein,
c'est très compliqué. Mmh. Donc j'avais envie d'adopter, mais j'ai pas envie de pourrir la vie de quelqu'un, en fait. Si je sais que c'est sûr l'enfant va être hyper heureux, je me poserai pas de questions. Ouais. Là, tu vois, j'ai ce questionnement de « Oh putain, je l'enlève quand même de sa culture. »
Mais même quand tu fais un enfant, en fait, tu vas lui pourrir la vie, tu vois.
Mais bien sûr, évidemment. Évidemment.
Docteur, c'est convaincu.
Bah, mais bien sûr, il va falloir que je lui paye une thérapie dès son plus jeune âge pour. Bah oui, bien sûr. Tout le monde essaye de bien faire, sauf qu'en voulant bien faire, tu fais aussi mal des trucs. T'as des. Moi, par exemple, c'est un truc que je m'étais dit, c'est comme j'ai eu beaucoup de problèmes de poids. Si j'ai un enfant, je vais faire attention à son poids. Si je fais attention à son poids, je vais lui mettre ça dans la tête, inconsciemment. Et donc, il va se retrouver avec des troubles alimentaires. Est-ce qu'on a envie de ça? Eh ben non.
Et en même temps, ça fait partie de son chemin, à cet enfant.
Ouais, je sais, mais bon, je sais ce que c'est, j'ai pas envie que ça fasse partie de son chemin, quoi. Mmh. Donc, bon.
Mais ça t'as pas la sensation, par exemple, tu vois, que tes problèmes de poids, ça t'a aussi construit quelque part
Ah, mais moi, je suis convaincue que si j'avais pas eu des problèmes de poids, je ne serais pas sur scène aujourd'hui, je le sais. Mais bon, ça a quand même été beaucoup de souffrance. Et c'est encore toujours beaucoup de souffrance. Mais ouais.
Ça l'est encore aujourd'hui ?
Ah bah oui, oui, j'ai toujours des troubles alimentaires. Mmh. C'est un peu... ouais.
C'est compliqué.
C'est un peu compliqué. Hier, par exemple, je me suis descendue une boîte de céréales dans la journée. J'ai fait que ça. Et j'avais tellement mal au ventre, tellement mal au ventre. Mais je pouvais pas me contrôler.
Et t'as la sensation que ton métier, qui est aussi un métier où bah, t'as des moments de creux, en fait, ça te renvoie aussi à cette solitude où, en tout cas, t'es face à ta boîte de céréales et tu te dis, bon, bah, let's go, quoi.
Je sais pas si c'est ça. Je sais pas si c'est à cause de la solitude. Je pourrais pas l'expliquer.
Ok. Non, je te dis ça parce que j'ai eu quelques journées, moi, tranquilles, où je me disais, mais bon, j'ai pas de trouble alimentaire, mais c'est juste, tu vois, t'as ce truc où, quand t'as que toi à penser à toi dans ta tête, tu vois, tu te dis, qu'est-ce qui va pas en moi?
Ouais.
Alors que quand t'es dans le train, sur scène, que t'es en train de préparer un spectacle ou je sais pas quoi, t'es occupé, quoi. Ou de faire des podcasts, par exemple, dans mon cas.
T'es occupé, oui et non, parce qu'on a aussi beaucoup de moments où on n'est pas du tout occupé et où justement, on se rend compte que bah, cet instant T, on est très seul, quoi. Ouais.
Ok. C'est le podcast de la...
De la joie.
Des good vibes, hein.
Ouais, c'est ça.
Tu parles beaucoup de ton rapport aux parents aussi. Tes parents, ils ont vu ton spectacle?
Mes parents ont vu mon spectacle, mais ils n'ont pas tout vu parce que tout n'était pas écrit. Notamment la partie sur le viol.
Donc, tes parents ne le savent pas?
Non, non. C'est pour ça que je suis très mal à l'aise à chaque fois que c'est abordé dans les...
C'est vrai?
Ouais.
Ok.
Ben, il n'y a pas beaucoup de communication dans ma famille.
Tu n'en as jamais parlé?
Non.
Tu veux dire que, en fait, donc je ne sais pas combien de représentations tu as fait de ton spectacle.
Ouais.
Tu as plein de gens qui le savent.
Tout à fait.
Avant tes propres parents.
Exactement.
Ok.
Il n'y a pas de communication dans ma famille. C'est...
Mais en fait, tu as peur de leur en parler? Bah après, peut-être c'est trop perso, tu vois, je veux pas rentrer dans
le
là-dedans.
C'est pas que j'ai
mais...
peur, c'est que comme justement, on communique pas, je me dis, bah, c'est délicat d'aller les voir en disant, en fait, il y a un humoriste qui m'a agressé sexuellement. Je trouve ça un peu... je sais pas. Je sais pas s'il faut que je dise bonjour avant, tu vois. Ouais.
Ah ouais, putain.
Mais mes troubles alimentaires, c'est pareil. Hein.
Ils savent pas non plus.
Bah, je pense qu'ils ont découvert parce qu'il y a une vidéo qui est sortie sur TV Slash. Donc, je pense que ma mère a dû voir, mais ils savent pas. Ils savent que je me faisais vomir quand j'étais ado parce que bah, à un moment, j'étais obligée de le dire quand j'ai bouché le lavabo.
Merde, ok. C'est sûr.
Mais sinon, non, on parle pas de ça.
Et t'as l'envie... En fait, c'est marrant parce que je me demande...
T'es mal à l'aise, hein ?
Non, pas du tout.
Non ?
Non, non, pas du tout. Okay. Franchement, tu vois, comme je suis daron moi-même, ouais. Je me positionne en tant que parent, là, ouais. Tu vois, et je suis dans ce truc de... Comment je vivrais le truc, tu vois ? Je sais pas comment je vivrais le truc de me dire, ah merde, en fait, ma fille, elle a décidé d'aller raconter son histoire d'agression sexuelle et de viol à je sais pas combien de milliers de personnes, enfin, combien t'as fait de représentations, mais c'est quand même beaucoup.
Ouais.
Avant de venir m'en parler à moi.
Ouais.
Et en fait, tu vois, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est plus toi qui es gêné que tes parents qui sont gênés de t'en parler? Peut-être qu'ils savent et qu'ils osent pas t'en parler, tu vois, parce que toi-même t'es pas allé leur en parler et qu'il y a une sorte
peut-être.
De...
Peut-être. On saura jamais.
Ça me fout, hein. Tu vois, je suis là, waouh. Ok. Oh là là, ça me... Ok, très bien.
Mais je suis désolée, hein.
Mais non, mais ne sois pas désolée.
Mais c'est juste que c'est... peut-être que toi, tu parles beaucoup avec tes filles. Et moi, dans ma famille, c'est vrai qu'on ne communique pas beaucoup. Donc, on se parle évidemment, mais tout ce qui est vraiment très, très perso.
Tu veux dire? Mais pardon.
Ouais, ouais, ouais.
Tout
ouais.
Ce qui compte, tout ce qui te touche, toi, quoi.
Oui, tout à fait.
Ok. Tu crois que tu leur en parleras un jour?
Peut-être, je ne sais pas. Bah...
Tu sais que j'avais vraiment en tête, moi, que je m'étais dit, ok, c'est une catharsis pour toi, et c'est une façon de le sortir au monde et de le balancer aux gens que t'aimes, etc.
Ah non.
De le mettre dans ton spectacle. J'ai projeté ça tout de suite.
Ah non, non, pour moi, c'est vraiment pour qu'il y ait une prise de conscience que les femmes ne mentent pas, en fait. Et évidemment, il y en a qui mentent, mais pas beaucoup. Hein. Moi, je parle de ça pour qu'il y ait une prise de conscience. C'est pas pour... C'est pas pour j'utilise...
thérapie perso, c'est non. aussi...
Non, 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 non parce que tout. Moi, je suis en paix avec ça. Ouais. J'ai discuté avec lui et j'en parle dans mon passage. Ouais. Je ne suis pas traumatisée, je suis en paix avec ça. Mais non, non, c'est vraiment pour qu'il y ait une prise de conscience. Et en fait, souvent, quand on fait de l'humour, quand on veut faire prendre conscience aux gens de quelque chose, on parle de notre histoire. Donc, bah, forcément, on est obligé aussi à un moment d'en parler.
Ok. Sans transition, je voulais te remercier aussi parce que j'ai découvert la différence entre les pénis de sang et les pénis de chair
avec
grâce
plaisir.
À toi. Franchement, j'étais. j'ai grandi dans des vestiaires de sport. Pas dans des vestiaires de sport, mais j'ai fait beaucoup de sport collectif.
Ouais.
Et donc, j'ai vu énormément de bites
ouais.
en grandissant. Et ouais. c'est vrai que j'avais vraiment cette. J'ai moi-même, je crois, un pénis de sang, tu vois. Et j'étais assez scotché
ouais.
De voir qu'il y avait vraiment des garçons qui avaient des zizi au repos extrêmement costauds.
Mm-hmm.
Donc, les fameux pénis de chair dont tu
Tout
parles.
Tout à fait.
Et qui grandissent proportionnellement beaucoup moins. En érection que les pénis de sang qui peuvent doubler, tripler.
Dieu merci. Dieu merci qu'ils ne grossissent pas autant parce que sinon, il y aurait beaucoup d'empalage. Vraiment. Vraiment. Donc, Dieu merci, quoi. Ouais. L'enfer.
Et putain, j'aurais adoré savoir ça quand j'avais genre 13-14 ans, quoi.
Et ben voilà pourquoi j'en parle aussi dans mon spectacle.
Non, mais c'est vrai. Il faut que t'ailles dans les collèges.
Mais...
Faire ces 5 minutes.
Ouais, mais je sais, mais en fait, même si je parle de perte blanche, de tous ces sujets-là, c'est pas pour essayer de choquer les gens. Ou... Parce qu'il y a des gens, si je parle de pénis de sang et pénis de chair, il y a des gens qui croient que j'essaie de choquer, de provoquer.
Ah non.
Non, je veux qu'il y ait des prises de conscience et que les gens arrêtent de complexer, en fait.
Franchement, ça se sent que t'es hyper aligné par rapport à ça. T'es pas dans la provoque gratuite.
Mais non, pas du tout.
Ça se sent vraiment sur scène. On sent que t'es juste dans... Je vais vous raconter des trucs que j'aurais bien aimé savoir plus tôt.
Mais j'ai tellement complexé. J'ai tellement souffert de plein de complexes. J'ai tellement eu des copines qui me disaient que j'étais pas normale. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important pour moi de parler tous ces trucs pour dire, en fait, on est tous normaux.
Avec une voix qui part vers le haut.
Avec une voix qui parle vers le haut, exactement.
Enfin...
Ouais. Ouais.
Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler?
Non.
Non. On a.
Attends, mais ça claque beaucoup les portes. Hein.
On a parlé de plein de choses.
Ouais.
Est-ce que donc tu rejoues ton spectacle
ouais.
en juin?
Fin juin, 23, 24 et 25 juin à l'Européen.
On peut te trouver sur Instagram, mais tu postes pas trop de trucs.
Non.
Enfin, si, tu postes des vidéos.
Je poste quelques trucs,
des
mais extraits, pas beaucoup, ouais.
Des extraits de vidéos, etc.
Ouais.
Et puis, t'es en tournée aussi.
Et je suis en tournée. J'ai plus beaucoup de dates, là, mais ça va reprendre en septembre. Mais je joue à Rouen. Bah oui, mais je sais pas quand ça va être diffusé.
Bientôt.
Ok. Mmh. Bah, faut aller voir sur ma page Insta, il y a un lien avec mes dates.
Il y a un truc dont je t'ai pas parlé, c'est ce lien particulier avec Verino. Putain, je suis idiot. Moi.
Ouais, parce que sac de merde là. Non,
ouais,
je rigole.
Voilà.
Je l'adore.
Non, mais c'est parce que j'ai eu Verino il y a quelques mois
ouais.
en interview et justement on parlait de la façon dont il t'a pris sous son aile à un moment donné dans ta carrière, etc.
Ouais.
Effectivement, votre collaboration s'est arrêtée avec le Covid
ouais.
Parce que c'était un peu compliqué à gérer,
ouais.
j'imagine, pour lui. J'avais envie de te demander qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler avec Verino et avec donc sa femme qui est Marion.
Ouais. Eh bien, écoute, déjà de signer avec une production, ça que ce soit eux ou n'importe qui d'autre, ce qui change, c'est que tu n'as plus les soucis financiers. C'est-à-dire que c'est plus à toi de louer des salles, c'est eux qui s'occupent de tout. T'es payé pour jouer. Donc déjà tu n'as plus ce stress de est-ce que je vais devoir payer la salle dans laquelle je joue parce qu'elle sera pas assez remplie et que donc à la fin du mois au lieu que eux ils me donnent un peu d'argent moi je vais devoir les payer.
Jusque là t'étais autoproduite.
Ouais.
Ok.
Donc, après la dernière année je jouais au Paname donc là ils te demandent pas d'argent
ouais.
juste tu prends le chapeau. Mais avant j'avais joué dans des théâtres où moi j'avais dû leur donner de l'argent tu vois parce que bah la salle était pas assez remplie. Donc déjà t'as ça en moins. Et après, là, l'autre truc qui a été parce que c'est Verino et Marion et pas parce que c'est quelqu'un d'autre, c'est que j'étais quand même dans des environnements assez misogynes, j'étais pas, J'ai atteint le niveau que j'ai aujourd'hui grâce à ces endroits, parce que j'ai pu beaucoup bosser là-bas, mais c'était pas une ambiance bienveillante.
C'est pas un truc où t'as forcément envie d'aller travailler, quoi.
Non, voilà. Mais je peux pas non plus leur cracher dessus, parce que si ce lieu avait pas existé, j'aurais pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Donc ça, je sais quand même le reconnaître. Mais j'ai été contente d'en partir à un moment, tu vois. Et c'est notamment grâce à des personnes comme Verino, qui m'a pas du tout poussée à en partir, mais d'être beaucoup avec lui, parce que je faisais toutes ces premières parties à Paris. Donc j'étais quand même avec lui du mercredi au samedi, plus beaucoup en tournée avec lui. Et ben, d'être avec des personnes bienveillantes, ça m'a vraiment, je me suis dit, OK, donc c'est possible, en fait, d'être dans ce milieu et d'être bienveillant et d'être gentil. Et c'est vraiment ça que j'ai eu avec lui, que j'aurais pas eu, parce que, comme lui, il est artiste, il savait aussi comment me parler. Moi, la production avec qui je suis aujourd'hui est très bienveillante, mais ben, ils sont pas artistes. Donc, tu vois, il y a aussi un truc qu'ils peuvent pas forcément comprendre de moi.
Ouais, c'est sûr.
Ouais.
C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est cool d'avoir un artiste en tant que producteur, quoi. C'est qu'il voit, vous parlez du même, endroit, quoi.
On se comprend.
On se comprend,
ouais.
On parle un langage commun.
Ouais.
Ouais. Ok. Et en fait, c'est intéressant parce que j'ai un peu l'impression que t'as toi aussi fait ton chemin en te rendant compte que les trucs que tu pouvais vivre dans ton quotidien, c'était pas forcément normal. Et comme tu le disais tout à l'heure, comme t'as connu que ça, forcément tu te dis que c'est la normalité. Et je trouve que c'est cool aussi de dire aux jeunes femmes, mais aussi pourquoi pas aux jeunes mecs, quoi, tu vois, que vous êtes pas obligés de travailler dans des endroits qui vous conviennent pas, quoi.
C'est ça.
Que vous pouvez trouver un endroit où c'est cool.
C'est ça, mais j'ai eu ces discussions pendant longtemps avec des personnes, parce que je sais qu'il y a des personnes, notamment une femme qui arrêtait pas de se plaindre de cet endroit, mais qui continue à aller y jouer. Je dis, mais en fait, tu peux jouer partout. À Paris, je comprends pas pourquoi tu vas là-bas. Et elle m'avait dit, mais tu comprends pas, j'ai pas ton niveau, donc j'ai pas encore accès au gros comedy club où on est payé en cachet. Et elle continuait d'aller jouer là-bas parce que c'était payé au chapeau. Je dis, mais tu sais que moi, quand j'ai commencé, les chapeaux, ça n'existait pas. En fait, on allait travailler pour devenir meilleur, on n'était pas payé et on gueulait pas parce qu'on n'était pas payé, c'était normal de pas être payé parce qu'on apprenait ce taf-là. Et là, j'ai remarqué depuis peut-être 2 ans, il y a une vraie différence où les gens qui commencent le stand-up aujourd'hui, ils veulent pas aller jouer dans des endroits si c'est pas payé, alors qu'ils viennent de commencer. Et moi, je le vois vraiment comme, quand tu commences, t'es étudiant. Et quand t'es étudiant, à moins d'être en alternance, tu n'es pas payé pour être étudiant, tu apprends ton taf. Et donc voilà, ils vont se mettre dans des endroits alors qu'ils peuvent aller jouer dans plein d'endroits où ils peuvent ne pas être payés et ils vont mieux apprendre comme ça. Voilà, ouais.
Ok. C'est quoi pour toi la suite? Parce que tu vois, j'ai l'impression que t'as creusé un peu là dans ton existence, tu vois. T'as la sensation que tu vas devoir toujours creuser plus pour raconter des trucs
ouais.
Qui te concernent.
Ouais, bah moi ça me fait peur de me dire que pour le prochain spectacle, il va falloir que je trouve des sujets au moins aussi forts, quoi. Parce que sinon, bah, tu descends. Bah, un peu. Non. Donc, ça me fait peur. Pour l'instant, je suis sur ça.
T'as en tête de l'écrire bientôt, ton prochain spectacle, ou tu comptes encore le jouer encore quelques années, là?
En fait, celui que je joue actuellement, il y a un an, il n'était pas encore du tout écrit. Oui. Donc, on en est qu'au début, là.
T'as du taf encore devant toi à le jouer.
Il y a encore beaucoup de dates, il n'est pas encore tout à fait fini, il y a encore des trucs que je veux retravailler qui ne sont pas encore assez drôles pour moi, donc tu vois, il est toujours en...
Tu continues à le taffer en permanence.
Ouais.
Ça veut dire que t'as tes parents, d'autant plus, ils vont peut-être le voir. Putain, tu vas aller jouer bientôt vers chez eux ou pas?
Oui, au mois d'octobre. Ouais.
Ça va?
On verra. Ils sont venus me voir l'année dernière en octobre, donc peut-être que je dis, mais en fait, il n'y a pas besoin de venir parce que... Non mais je sors de scène, déjà ma mère me reconnaît pas, on sait pas pourquoi, et mon père me dit dis donc t'es de plus en plus trash, donc il est évident qu'ils n'aiment pas ce que je fais. Est-ce que à un moment ils vont se faire souffrir à chaque fois que je joue à Lyon? Mais je sais que c'est violent ce que je...
Non, pas du tout, je le comprends vraiment.
Qu'ils n'aiment pas ce que je fais?
Non, que non, qu'en fait toi tu cherches pas forcément à avoir leur approbation.
Ah,
pardon,
bah...
c'est ça que tu voulais dire? Non, pas du tout.
Ah non, c'est pas ça. Pardon. Que je voulais dire. Je cherche pas à avoir leur approbation parce que... Ah non, ça, je me suis vraiment...
Mais non, parce tu que trouves si... que tes parents sont violents, c'est ça, avec toi?
Non, c'est pas ça. C'est que je vois qu'ils n'aiment pas ce que je fais. Mais c'est normal qu'ils n'aiment pas ce que je fais. Je suis leur fille et je raconte pas mal d'histoires de cul que j'ai vécues. Évidemment que ça ne leur fait pas plaisir d'entendre ça. Mais moi, ce spectacle, je ne l'ai pas écrit pour mes parents. Parce qu'à la base, je ne parlais pas de tout ça, parce que je me disais, oh, j'ai quand même des parents, un jour, ils vont voir. Et le jour où je me suis dit, il faut que tu arrêtes de vivre pour tes parents, j'ai vraiment pris un niveau en stand-up. Et donc voilà, je n'écris pas pour eux, j'écris pour moi et pour que les gens se reconnaissent. Et clairement, mes parents se reconnaissent pas. Donc à un moment, c'est pas pour eux. Peut-être qu'il faut qu'ils arrêtent de venir, tout simplement.
Je vous mettrai un lien dans un podcast dont j'ai parlé et je le recommande également, d'un bouquin qui s'appelle « Vos parents ne sont plus vos parents » et qui développe tout un truc autour du fait qu'à l'âge adulte, en fait, vos parents deviennent vos ex-parents. Et qu'en fait, vous, en tant qu'enfant, vous êtes désormais des ex-enfants. Et je trouve que ça aide justement à te libérer en tant qu'adulte du fait que bah, en fait, tes parents ne sont plus tes parents. Ils sont tes ex-parents dont tu avais besoin quand tu étais plus petite, quoi.
Ouais. Ouais, bah écoute, moi j'ai réussi en tout cas à me mettre dans cette position-là et donc j'ai pu écrire des trucs, raconter ce que je voulais raconter, quoi.
Waouh. Ok. Ok. Non, c'est marrant.
Pourquoi c'est marrant?
Non, parce qu'en fait, je me dis, je trouve ça génial d'avoir cette position-là et de te dire, et d'un autre côté, bah, en fait, quelque part, t'en as rien à foutre qu'ils finissent par venir te voir et qu'ils entendent ton histoire d'agression sexuelle, etc., non?
Bah, j'en ai rien à foutre, non. Okay. Mais ça va me faire de la peine parce que je sais que ça va leur faire de la peine. Mmh. C'est ça, en fait.
Ouais. Ouais. Mais c'est pas fort. Enfin, c'est pas ton problème, ceci dit. Leur peine à eux.
C'est ça, ouais.
C'est dur de devenir adulte, non?
C'est dur de devenir adulte, mais... Pardon. Oh là là, je casse tout. Mais en fait, là où je me fais un peu violence, c'est que moi, il y a des trucs que j'ai compris sur ma vie et pour lesquels j'ai arrêté de complexer en entendant des discours d'autres personnes. Et donc, je me dis, j'ai été aidée par d'autres personnes, donc si moi, je peux aider d'autres personnes, c'est cool de le faire. Donc... Ben, si ça plaît pas à mes parents, c'est pas grave parce que c'est pas ma cible, c'est pas eux que je peux aider. C'est les gens plus jeunes que moi ou les gens de mon âge ou même un petit peu plus vieux que moi, mais pas mes parents. Donc voilà, tant pis, c'est pas pour eux que je fais ça.
C'est le spectacle de la maturité. Donc.
Ah, le spectacle de la maturité, mon Dieu, c'est exactement ça, on va changer le titre. Hein. Tania Dutel dans le spectacle de la maturité.
Merci Tania, c'était super
merci
cool. Moi, je redis, hein, vous pouvez aller suivre Tania sur les réseaux pour découvrir tes dates, quoi, partout
ouais,
où tu joues.
Oui, voilà, vous pourrez faire que ça. Allez. Parce que je poste rien. Donc,
Et puis découvrir la différence entre les pénis de chair et pénis de sang. Quoi. Ouais. Quelle joie. Merci Tania, c'était cool.
Merci à toi.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez « Histoire de succès » directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.